Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume Dard. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël.
Face à vous, Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
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 À BFM Business et Gilbert Sett. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Professeur d'économie à Neoma Business School. Je voulais qu'on commence par ce qui se passe sur les marchés obligataires, sur les taux qui ont flambé là encore dans cette nuit. Ça fait quelques jours que ça dure, hein, Guillaume Dard. Mais enfin là, c'est la cote d'alerte. 5,2%. Sur les taux à 30 ans aux US.
C'est très préoccupant et comme vous venez de l'expliquer, c'est un phénomène qui ne touche pas que la France, qui ne touche après la plupart des grandes démocraties
oui.
en ce moment. C'est-à-dire que à la fois les États-Unis, vous vous rappeliez que le taux à 30 ans est passé à 5,20%. C'est très important le taux à 30 ans aux États-Unis parce que c'est le taux sur lequel sont indexés les financements hypothécaires, les financements immobiliers. Donc ça peut avoir des conséquences sur le marché
immobilier américain.
Immobilier, ce qui fait des taux importants. Les taux aux États-Unis pour l'immobilier, c'est du 6,5%, du 7%. Hein, donc c'est beaucoup plus fort qu'en Europe.
Et puis ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, l'immobilier américain.
En Grande-Bretagne, la situation est absolument catastrophique, avec un paysage politique qui ressemble à celui de la France dans la perspective préélectorale. C'était incroyablement fragmenté, avec ce parti un peu iconoclaste qui réforme, qui prend du terrain, mais qui dit qu'il faut rechanger le système. Et à l'intérieur du parti travailliste, une espèce de split avec une partie de gauche, très à gauche, qui voudrait revenir vers la nationalisation. Aux États-Unis, on ne va pas s'étendre. Au Japon, c'est complexe aussi. Et en Italie, ça va un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas terrible. Donc, on a une montée des taux d'intérêt partout. Il y a deux raisons.
Et de quoi est-ce, voilà.
On a une politique monétaire très, très, très favorable depuis la grande crise financière 2008, où on a créé énormément d'argent. On en a remis énormément sur la table en 2020, post-Covid. On en a enlevé un peu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'institutionnels qui sont obligés d'acheter des obligations. Mais on atteint le moment où on peut avoir ce qui se produit de temps en temps sur les marchés obligataires. En 1987, où on avait pris 3% pendant l'été. En 1994, on avait fait 1%. Et si on passe si on passe vraiment les 4% sur la France, important que les gens aient un chiffre en tête. La résistance des 4% est très importante parce que sinon on peut avoir un dérapage parce que les marchés ça fonctionne comme ça. C'est stable jusqu'au moment où ça dérape. Et là on peut aller vers 5% et 5% l'équation budgétaire elle sera terrible. Donc, on est dans un moment clé et ce qui est très ennuyeux, parce que vous connaissez le principe de Murphy, tout ce qui doit se passer mal se passe mal. Les États sont surendettés, donc ça doit se passer mal sur les marchés. Généralement, au plus mauvais moment, au moment où on change le patron du système mondial financier, le patron de la Fed.
Bon, Jean-Marc ?
Oui, dans cette situation, je pense qu'il y a effectivement des effets de court terme, hein, parce que les taux d'intérêt montent, mais simultanément, aujourd'hui, pour la première fois, l'or va être en dessous de 4 500 $ l'once. Mmh. Donc il a retrouvé son niveau de la fin de l'année dernière, alors qu'il s'était pulvérisé à plus de 5 000 $ l'once. Donc on a l'impression que les endroits qui sont les biens, qui sont le refuge naturel en cas d'inquiétude, ne répondent pas à cette fonction. Donc, l'or ne monte pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser.
Qu'est-ce qui explique ce dysfonctionnement?
Alors, ce qui explique ça, c'est justement, on va revenir à l'acteur essentiel du moment, c'est la Banque Centrale. C'est-à-dire que les banques centrales avaient acheté beaucoup d'or à la fin de l'année dernière, et puis là, en ce moment, elles sont plutôt en retrait par rapport à ce mécanisme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe à plus moyen terme, c'est l'analyse d'un certain nombre d'économistes sur la période des années 80, en disant que, en fait, tout le monde avait encensé Volcker, puis ensuite s'est abattu sur Greenspan, en disant qu'après avoir été le gourou, finalement...
Volcker, on rappelle,
avait lutté contre l'inflation. Et il y a une relecture des années 80 en disant que ça a été calamiteux parce que la politique monétaire avait été tellement restrictive que pour éviter de casser la croissance, l'État américain avait été obligé de faire un énorme déficit, le déficit Reagan. Et donc la conséquence, c'est qu'on avait été dans une situation où il y avait à la fois des taux d'intérêt très élevés et un déficit budgétaire énorme. Et dans le
policy mix, c'est un peu la situation qui perdure aujourd'hui.
C'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est d'avoir effectivement des taux d'intérêt. Et à l'époque, Samuelson avait rappelé qu'un des objectifs, une des missions de la Banque Centrale Américaine, c'est pas tellement de lutter contre l'inflation, l'inflation ou de lutter contre le chômage, dont il dit que de toute façon les deux sont incompatibles, il y a un arbitrage de Phillips pour Samuelson, il dit c'est de maintenir des taux d'intérêt compatibles avec la croissance potentielle. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant dans le discours du nouveau président de la Réserve fédérale, c'est qu'il a rappelé que son indépendance n'avait de sens que s'il respectait l'ensemble de ses mandats, y compris le mandat visant à maintenir des taux d'intérêt compatibles avec la croissance potentielle des États-Unis.
Donc je pense message adressé à Trump, ça.
Oui, absolument. C'est-à-dire que je pense que des enjeux du moment, c'est effectivement l'attitude des banques centrales, sachant que, un, le discours, elles sont là pour lutter contre l'inflation, ne correspond plus à la réalité économique mondiale. Il y a des tensions sur les prix, mais il n'y a pas de l'inflation au sens historique du terme. C'est-à-dire que assez vite, je maintiens...
La spirale prix-salaire.
Voilà, la spirale prix-salaire n'est pas au rendez-vous.
Et donc, on va quand même augmenter le SMIC le 1er janvier, là.
Oui, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de SMICards. Il ne va pas y avoir de l'inflation, mais il va y avoir de plus en plus de SMICards. Mais en revanche, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on est dans une situation où les banques centrales doivent réfléchir à leur rôle, revenir à cette idée qu'elles sont là aussi pour avoir des niveaux de taux d'intérêt compatibles avec la croissance et se poser la question, par rapport au bilan du quantitative easing, est-ce qu'elles vont être appelées de nouveau à augmenter le volume d'emprunt public qu'elles vont acheter ? C'est-à-dire, est-ce que la mission de la Banque centrale, ça va être maintenant de passer un accord, là aussi, dans les travaux qu'il y a en ce moment, il y a une sorte d'accord implicite qui avait été passé entre Greenspan et Clinton sur le thème « je baisse les taux d'intérêt » et Vous réduisez les déficits budgétaires. Oui. Je fais une politique.
Ça marche arrière, donc.
Voilà. Et donc, je baisse les taux d'intérêt, vous déficitez les déficits
budgétaires. Qui avait bien marché.
Qui avait très bien marché.
Avec un excédent incroyable. Et on se disait, il n'y aura plus de dette américaine à placer. Donc, on voit que ça va vite.
Et donc, je pense qu'effectivement, un des enjeux derrière les éléments purement conjoncturels, c'est de réfléchir à ce à quoi on sert une banque centrale. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une banque centrale et ne pas considérer qu'il y a une espèce de tabou qui consiste à dire elle est là pour l'inflation, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, c'est l'inflation. Oui. Elle est là pour répondre aux...
Il y a le DOM et puis il y a l'application du DOM.
Oui, elle est là pour répondre aux exigences de l'économie à l'instant T.
Une réponse que je vais laisser parler Gilbert.
Je serais curieux de savoir si les questions sont aussi précises en ce moment même en commission des finances à l'Assemblée nationale, où est auditionné Emmanuel Moulin, probable futur gouverneur de
la Banque de France.
De France, nos chers députés.
Ça va se décider aujourd'hui.
Inspirés d'écouter les experts.
Ça va se décider aujourd'hui, effectivement.
Gilbert Sept.
Écoutez, tout a été très bien dit par mes deux merveilleux collègues. Je dirais que les banques centrales sont dans la situation la pire pour elles. La pire pour elles, au sens où la conjoncture est mauvaise, la croissance est ralentie et les perspectives de croissance sont abaissées progressivement. Et pour autant, on a de l'inflation. Donc, c'est une situation qu'on a qualifiée, qu'on a nommée de stagflation
à d'autres
époques. Donc, mettre...
Il y a un débat, pardon Gilbert, accentuer. Je vous coupe une seconde, il y a un débat autour de ce terme de stagflation. Est-ce qu'on est, oui ou non, en période
en tout
de
cas,
stagflation
en tout cas, on peut,
Moi,
en tout cas,
non.
On peut...
Moi, je dis oui.
En tout cas, on peut se diriger vers cela. Les perspectives de croissance sont abaissées continuellement depuis quelques semaines.
Oui.
Et le 0,9% de croissance pour la France, qui est dans le RA, dans les prévisions de Bercy, paraît maintenant bien optimiste. Hein. L'acquis de croissance à la fin du premier trimestre pour l'année 2026 est de 0,4%. Il faudrait une croissance soutenue sur la fin de l'année.
0,3% à chacun des trimestres, ça va être très
0,3%
hein.
Sur chacun des trimestres,
oui.
D'ici la fin de l'année pour toucher les 0,9% prévus par Bercy. Ça paraît une perspective non...
optimiste, volontariste, oui, comme
voilà,
on dit à Bercy.
Très, très, très volontariste. Donc les banques centrales sont dans une situation un peu complexe pour elles, et évidemment, avec les 3% d'inflation dans la zone euro, même si la France fait un bon score avec ses 2,5. Hein.
Oui.
Il y a deux pays qui font un petit peu moins que nous, Malte et la Finlande, mais à part ces deux pays-là, tous les autres font
oui,
plus. L'Allemagne est à 2,9, ouais. L'Italie est à 2,9, nous sommes à 2,5, et la moyenne de la zone euro est à 3%. Donc, le dilemme va être très fort pour, évidemment, la BCE, et le Conseil des gouverneurs de la BCE, avec un nouveau gouverneur pour la France, pour représenter la France, et pour la Fed. Donc les décisions vont se prendre le mois prochain. Néanmoins, pour l'instant, je suis d'accord avec Jean-Marc, il n'y a pas de transmission au salaire. Pour l'instant, il faut insister sur
c'est un choc des prix.
Faut insister sur ce pour l'instant. Néanmoins, dans la tension à côté des réactions des banques centrales, dans la tension qu'on connaît sur les taux longs, il y a trois causes. La première cause, c'est évidemment l'attention qui est portée aux réactions des banques centrales et la possibilité que les banques centrales se raidissent et appuient davantage sur le frein en augmentant leurs taux. Il y a le besoin croissant des États, puisque la croissance se ralentissant, les besoins de financement public vont augmenter. Et puis, aux États-Unis, il y a les annonces du nouveau chairman.
Kevin Warsh.
Qui disent, je vais nettoyer le bilan. Et donc, je vais mettre sur le marché davantage de dettes publiques américaines. Et ça, c'est évidemment une tension spécifique aux États-Unis, mais qui n'est pas négligeable et qui peut se propager, qui peut s'étendre, qui peut se diffuser à l'ensemble des pays pour les taux longs. C'est pas négligeable parce que on compte ça en milliers de milliards quand même, hein,
évidemment.
De dollars.
Je passe la parole à Guillaume Dard. Je voulais simplement qu'on écoute François Villeroy de Gallo hier qui a été interrogé sur une possible hausse des taux. C'était probablement la dernière intervention publique du gouverneur de la Banque de France. On l'écoute tout de suite.
Je crois qu'il ne faut pas focaliser le débat seulement sur le calendrier. Permettez de le dire avec un sourire, quand on était au mois d'avril, c'était qu'est-ce que vous allez faire 20 avril. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire début juin. Je vais le dire en anglais parce que ça s'y prête mieux. The main question is not about the date, it's about data. Pas un calendrier, mais des données. Mais nous serons prêts à agir comme il le faut parce que nous avons une obligation de résultat. Les ménages et les entreprises françaises et européennes peuvent nous faire confiance pour assurer cet ancrage de l'inflation à 2%. Je le redis très fortement.
Alors, il faut augmenter les taux ou pas?
Alors, ce qui est intéressant, c'est d'écouter, quand on écoute cette déclaration de François Villeroy de Gallo, c'est d'abord, il faut voir qu'il s'était positionné à l'intérieur des banquiers centraux européens comme celui qui était au fond une position assez centriste, mais enfin plutôt flexible, plutôt dovish, plutôt colombe, c'est-à-dire par opposition aux gens du Nord qui veulent que les taux soient plus hauts. Il était une position. Et il a rappelé ce date for data. Et là, ça va être, c'est très différent parce que Kevin Warsh a expliqué dans son intervention que lui, il veut changer ce système. Vous savez qu'on entend à chaque conférence de presse de la BCE et de la Fed, on attend d'avoir des datas, des données complémentaires et on jugera par rapport aux données, etc. Il dit, d'abord, il faut faire beaucoup moins de blabla. Hein. La fonction du gouvernement central, c'est à la fois de prendre ses décisions et c'est à la fois d'être un espèce de chaman. C'est Greenspan qui l'avait mis en place, c'est-à-dire on dit des choses qu'on ne comprend pas vraiment.
Voilà, et puis si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé.
Et ça rassure tout le monde, etc. Et il dit, bon, le chaman, tel que l'a fait Powell, d'abord, il vient tout le temps, donc il ne fait plus sa fonction de chaman. Et d'ailleurs, moi, je vais faire le chaman dans la hutte. Il n'est pas je vais réduire le nombre de conférences de presse très systématiquement. D'abord, c'est une invention récente, cette conférence de presse. Greenspan n'en faisait pas. Il faut que la parole soit rare. Il faut qu'on réduise le nombre de réunions et on pourra agir en dehors des réunions. Donc, il veut être plus mystérieux. Alors, je reviens juste sur un point dans la discussion avec Jean-Marc, c'est la notion d'inflation, elle est très importante pour les couches défavorisées. Parce que quand l'inflation du panier de la ménagère, et on voit tout le débat sur les gens qui roulent beaucoup, les gens sont très, très à juste titre, très, très sensibles à la variation de prix, même si ça n'est pas techniquement de l'inflation. Parce qu'ils se doutent qu'ils n'auront pas forcément une boucle prix.
C'est exactement les réactions, je me permets de vous couper, que j'ai sur mon compte Twitter. N'hésitez pas, @lejeanra. Il faut arrêter avec cette coquetterie pseudo-académique des économistes, nous dit Bob Merle, qui ne voit pas l'inflation dans nos économies développées tant que la spirale prix-salaire ne se voit pas.
Voilà. Alors,
point sur le bec.
Deux réactions. Parce que Jean-Marc saura se défendre. J'ai pas besoin de le défendre. Il a toujours raison. Mais voilà. Le sujet, c'est la stabilité sociale dans des temps très instables socialement. Et c'est vrai que c'est pas le moment de rajouter une hausse des prix, quelle qu'elle soit, qu'elle s'appelle inflation ou pas, qui soit sensible. Les banquiers centraux sont quand même pas absolument autistes au point de pas voir les disputes sociales, enfin les dissensions sociopolitiques.
Ils vivent aussi dans la cité.
Dans toutes les démocraties. Bien et sûr. On sait quand même qu'un des facteurs d'accélération le plus fort, c'est de déstabilisation, c'est l'impôt. Et la deuxième chose sur Kevin Warsh, et là je donne raison à Jean-Marc, c'est que Jean-Marc il dit attention, personne ne sait ce que va donner comme gain de productivité l'IA, comme possibilité de croissance, et qu'à ce moment-là, il faut pas que je mette un trop élevé, comme l'IA va rendre nécessaire énormément d'investissements en milliers de milliards, là aussi, je ne dois pas casser cette possibilité de croissance pour un accident sur les matières premières à court terme.
Jean-Marc. Oui, je voudrais réagir à trois niveaux. D'abord, par rapport à l'auditeur téléspectateur, il y a effectivement, c'est un enjeu classique. Enfin, j'ai commencé ma carrière à l'INSEE il y a près de 50 ans. Déjà, à l'époque, il y avait un enjeu autour de l'indice des prix qui ne reflétait pas la réalité du pouvoir d'achat. Et Jean Fourassier s'était illustré en rappelant que pendant toute sa carrière au commissariat au plan, on demandait régulièrement aux gens combien il leur manquait pour avoir un niveau de vie décent. Il leur manquait toujours 15%. Et aussi bien en 1950 qu'en 1970, il manquait 15% de revenus.
Donc toujours un sou pour faire 100 sous.
Alors que, en réalité, leur pouvoir d'achat s'était considérablement amélioré. Et de façon là aussi anecdotique, en ce moment même, on vote une loi sur le plan agricole, oui, du fait de l'effondrement du prix du lait et d'un certain nombre de légumes, parce que les agriculteurs n'arrivent pas à vendre à un prix raisonnable leur production. Et quand on va effectivement dans les supermarchés, eh bien ça se voit. Je ne sais pas si... Moi j'achète aussi, non pas en tant qu'économiste, mais en tant que citoyen...
Oui. Et consommateur.
Et consommateur du lait, et je peux vous dire que je le paie moins cher qu'il y a un an. Donc, il y a aussi des prix qui bougent dans un autre sens qu'on ne voit pas toujours. Donc, il y a cet aspect un peu psychologique avec le fait que, pour conclure là-dessus, ce qui me frappe dans le débat, c'est qu'on n'arrête pas de dire que le pays s'appauvrit, alors que l'INSEE n'arrête pas de dire que le pouvoir d'achat augmente. Donc, il y a un véritable décalage.
Oui. Entre le ressenti et le réel.
Entre le ressenti et le réel.
On essaie de rapprocher en permanence dans cette émission.
Mais c'est vrai. Le PIB a une croissance. La seule chose, c'est que le pays s'appauvrit.
Hein, je le rappelle. Il n'en a plus.
Non, mais le PIB a une vague, quand même, sur 3-4 ans, prenons une croissance. 3-4 ans. Et ce qu'on voit, et la dette augmente beaucoup plus vite. Il nous faut deux unités de dette pour faire une unité de croissance, voire 2,5. Donc oui, le pays s'appauvrit et le niveau de vie des gens a augmenté.
Gilbert.
Oui, non, juste un élément pour dire que par rapport à ça, ce véritable danger et le véritable enjeu, c'est pas de dire l'inflation, c'est pas un débat sémantique, c'est la capacité qu'ont les banques centrales à réagir à cet événement. Et donc, le véritable enjeu, c'est que les citoyens ne perçoivent pas forcément la réalité comme les économistes en soi, c'est un fait. Oui. Mais que les banques centrales s'appuient également sur une erreur d'appréciation pour modifier leur politique et pour durcir leur politique monétaire, ça, en revanche, ce serait grave. Donc, le débat sur l'inflation, ça peut être un débat intellectuel. La réalité de la hausse des taux d'intérêt, ce serait une catastrophe.
Ah, c'est très clair. Gilbert.
Non, deux points. D'une part, les banques centrales sont bien sûr attentives à l'inflation et éventuellement, enfin aux éventuelles répercussions de la montée de l'inflation sur la formation des salaires. Et ce risque n'est pas exclure. Le point qui est important, c'est que l'indice des prix a augmenté en France, si on prend l'indice harmonisé européen, de 2,5% en glissement sur un an. C'est un fait. Simplement, personne ne se reconnaît. C'est le ménage moyen. C'est un indice des prix calculé sur un ménage moyen.
Eh oui.
Le ménage moyen, c'est ni vous, ni moi. Chacun a son panier de consommation propre. Et d'ailleurs, j'invite chaque personne qui doute de cet indice des prix à aller sur le site de l'INSEE où il peut calculer son propre indice de prix en repondérant le panier.
On peut se faire son propre...
Absolument. Absolument. Et donc, l'INSEE, sur ce plan-là, est évidemment très, très offreur, en quelque sorte, d'éléments concrets pour le débat public. Mais le ménage moyen, c'est une entité qui est indispensable pour évaluer l'inflation, mais qui ne correspond à aucun individu en particulier. Ouais. La question qu'il faut se poser dans un pays comme le nôtre, qui est en grande difficulté à la fois politique, sur le plan de la démocratie politique, sur le plan de la démocratie sociale, sur le plan évidemment des finances publiques, c'est qui va payer la facture ? Qui va payer la facture ? Comme vous l'avez très bien dit au début.
Absolument.
Il y a un prélèvement qui est fait sur le revenu national. Et un prélèvement qui n'est pas négligeable. Les trois payeurs potentiels, ça va pas être la planète Mars, évidemment. C'est ou bien les finances publiques, mais les finances publiques françaises sont exsangues. Ou bien les entreprises, mais les entreprises se font déjà bien matraquer, en particulier dans le dernier PLFSS et dans le dernier PLF. Et c'est les ménages. Mais les ménages, nous dit-on, sont très sensibles aux questions de pouvoir d'achat immédiat.
Oui.
Donc, il va bien falloir que quelqu'un paye. Et évidemment, matraquer davantage les entreprises, ça serait prendre le risque d'effet d'offre très défavorable à l'économie française.
C'est le choix qu'on a fait depuis deux ans, en tout cas.
Absolument.
C'est les entreprises qui redressent les comptes.
C'est clair, mais c'est les entreprises et l'État. et l'État. Augmenter davantage notre déficit, ça serait léguer à nos enfants un fardeau de dette encore plus élevé. Et puisque vous avez passé un petit extrait d'une intervention du gouverneur de la Banque de France, je renvoie les auditeurs au contenu de la dernière lettre au président de la République.
Où le gouverneur
dit très bien que le choix que nous avons fait sur les dernières années est le choix de la gérontocratie. Et quels sont les symptômes de ce choix? Eh bien, par exemple, que les pensions de retraite sont indexées. Légalement, d'ailleurs, il faut une décision légale hein, pour enlever, pour abaisser, pour diminuer cette sont indexés sur les prix. Le pouvoir d'achat des retraites, quel que soit leur niveau, est protégé. Le pouvoir d'achat des salaires, sauf au niveau
du SMIC. Non, pas les pensions des cadres, elles n'ont pas été augmentées.
Sauf au niveau...
Les pensions des cadres, qui représentent une grosse partie, n'ont pas été augmentées cette année.
On y reviendra.
C'est sur le régime de base.
Le régime de base qui fait les trois quarts des pensions.
Oui,
hein.
D'accord.
Sur les 420 milliards, ça fait un petit peu plus de 300 milliards.
Non, mais vous avez raison, Gilbert.
Je le rappelle. Et pour les autres, c'est l'inflation moins 0,4, quel que soit le niveau de l'inflation, hein, sur les deux dernières années. Donc, je le rappelle aussi. Donc, sur ce plan-là, c'est l'inflation moins 0,4. Et du côté des salaires, par contre, il y a une perte de pouvoir d'achat. Les années 2022...
C'est pas ce que dit l'INSEE, alors.
Non, 2022, 2023...
Les salaires ont augmenté en pouvoir d'achat.
Non, la masse salariale, les salaires individuels, le salaire moyen a perdu du pouvoir d'achat pendant la crise inflationniste et à la guerre en Ukraine. Il commençait à en récupérer un petit peu. Mais le surcroît, la remontée de l'inflation va évidemment amener le salaire moyen par tête à perdre logiquement du pouvoir d'achat. Les négociations salariales ont lieu en début d'année sur une inflation de l'an dernier et évidemment plus faible que l'inflation vers laquelle on se dirige en 2026 et en 2027. Donc, il y a un choix qui consiste à dire les actifs payent au niveau individuel, pas au niveau global de la masse salariale. Les retraités ne sont pas mis à contribution. Et les jeunes, on leur lègue un fardeau de plus en plus lourd. C'est ce que le gouverneur appelle des choix gérontocratiques. Est-ce qu'il faut les prolonger? Voilà, c'est une question qui est mise dans le débat public.
Je voudrais juste réagir par rapport à ce que dit le gouverneur, effectivement. L'indexation sur l'inflation était une indexation qui avait été décidée pour abaisser les retraites, puisqu'avant, les retraites étaient indexées sur les salaires.
Absolument.
Et donc, quand on regarde la décision qui a été prise en 1993, si on fait évoluer les retraites comme... si on avait fait évoluer le SMIC, comment évoluer les retraites, effectivement, le SMIC aujourd'hui serait à 8,50 €. C'est-à-dire que les retraités ne sont plus à la partie supérieure en termes d'âge de la population n'est plus associée à la vie économique du pays. Elle n'est plus associée à la croissance. Quand il y a la croissance, elle n'en bénéficie pas. Quand il y a effectivement une amélioration de la situation, elle n'en bénéficie pas puisqu'on lui donne comme seul objectif et comme seul
l'inflation.
Juste le maintien de son pouvoir d'achat.
Sauf que le pouvoir d'achat comparativement a augmenté du côté des retraités par rapport à celui des actifs.
Mais pas du tout. Encore une fois, depuis 1993,
avec la crise inflationniste,
En absolu, le pouvoir d'achat des salaires a plus augmenté que celui des retraités, puisqu'il n'a pas augmenté. La deuxième remarque que je ferai, c'est que ce discours qui consiste à dire il va falloir trouver quelqu'un qui va payer, je pense qu'effectivement, une façon de faire payer les gens, c'était ce qu'avait dit François Bayrou, c'était de les faire travailler.
Oui.
Je pense que la solution, c'est pas de punir des gens en disant vous êtes vieux, en fait, c'est le conte de Grimm, c'est à un moment donné...
Mais c'est pas une punition, on a un rétablissement des comptes publics à faire, on a des économies à trouver.
Est-ce que l'effort, ça doit être d'appauvrir une partie de la population, et notamment la partie la plus âgée de la population, ce qui est contraire, à mon avis, à une certaine forme d'éthique de la démocratie, ou est-ce que c'est de demander aux gens qui sont susceptibles de travailler davantage? Est-ce que le problème, je ne veux pas provoquer mon voisin, mais est-ce que le problème, c'est pas les 35 heures, plus que le niveau de vie des retraités?
Ou le taux d'emploi des seniors et des jeunes?
Guillaume Dard. Pour aller un peu dans ce sens-là. Un, ce que ça souligne, c'est le problème du système de retraite français, de la répartition. C'est-à-dire que on a toujours à peu près sur le même problème. Le gâteau ne grandit pas, on ne travaille pas assez, donc il y a un gâteau qui est plus petit, pour le répartir, on dit ah bah alors ah bah non mais il en prend plus, il en prend moins. Vous voyez le débat byzantin dans lequel on est. Moi je n'oserais pas. Gilbert connaît mieux que tout le monde tous les chiffres. Donc mais même à l'intérieur de ça, les retraites, il dit bah la retraite des cadres, elle progresse moins vite. Et quand on regarde les taux de remplacement des salaires de cadres de la génération actuelle par rapport à celui d'il y a 25 ans, 30 ans, il est très inférieur. Oui. Donc, alors on pourrait dire, ah ben alors là, c'est non, mais c'était les boomers d'avant qui ont été les vrais méchants, mais alors les boomers d'aujourd'hui, mais ils sont encore méchants parce qu'ils prennent plus. Et c'est vrai que sur l'actif, sur les actifs actuels, les taux de prélèvement sur la retraite
sont faramineux. On est à 28% du salaire.
Hein, mais donc,
ça va faire qu'augmenter.
Mais en même temps, sur la psyché française, là aussi, on peut se dire tout le monde responsable, puisque, un, on n'a pas voulu de fonds de pension. Même quand la droite le vote en 1994, on ne met pas en place les décrets d'application. Alors maintenant, on dit qu'on pourrait en faire un petit peu à côté, mais enfin, comme il y a déjà des gros prélèvements sur les salaires, ça ne va pas être facile. Et individuellement, les gens sont quand même moins bien payés et les retraités, en tout cas, ce que ça dit, c'est prenez votre retraite le plus tôt possible parce qu'il ne restera rien après. Oui, et, donc, et en plus, on ne veut pas rallonger la durée de retraite dans les deux sens, puisqu'on se dit, un, j'ai intérêt à toucher tout de suite tant qu'il y en a, et deux, non, je ne veux pas travailler.
Gilbert.
Oui, il y a une toute petite confusion dans les chiffres. Il faut que les auditeurs soient clairs sur ce point-là. Effectivement, sur longue, même sur moyenne période, le pouvoir d'achat salarial a progressé. Ce qui est tout à fait logique, parce que même s'ils sont faibles, il y a eu des gains de productivité.
Non, pas bénéficié les retraités. Il n'y a que les salariés qui en ont profité.
Absolument, Jean-Marc. Mais sur les trois dernières années, là, les choses sont un peu différentes. Et les salaires, au niveau individuel, ont payé une part du prélèvement exercé par l'extérieur, par l'augmentation du prix de nos importations et en particulier du prix de nos importations en produits énergétiques. Donc, la question n'est pas d'apporter une réponse définitive, de dire un tel. Il faut qualifier les choix qui ont été faits et les mettre clairement sur la table pour le débat public qui ne manquera pas d'avoir lieu dans le contexte des débats budgétaires de la fin de l'année qui vont être assez durs. Qu'est-ce que l'on veut faire et qui doit payer la facture? Et il est clair, pour l'instant, que certains choix ont été faits en France. Le gouverneur dénonce une gérontocratie. Est-ce qu'il faut...
Et moi, je dénonce le refus du travail. Je maintiens que le véritable enjeu, c'est pas de...
On va continuer à
répartir différemment le gâteau, c'est de commencer à dire aux gens, il va falloir peut-être augmenter le gâteau.